Ah oui, c'est ça. Je viens de comprendre ce que tu me dis. Ah, donc, fais chaud avec la tuque. Non, mais moi, j'aime la tuque, mais mes cheveux sont un peu... Bref, je mets la tuque l'hiver pour venir travailler. C'est comme ça qu'on travaille le dimanche matin, mesdames, messieurs. On se met confortable et on se parle d'immobilier dans une position confortable. Nos ambitions, ce qu'on veut faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quels sont vos rêves?
Puis est-ce que ça a changé par rapport à l'année passée?
Est-ce que ça a changé par rapport à il y a un an? Gérald, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Nous, on a acheté une maison de 1978, ça fait 2 ans, à Saint-Eustache.
Oui.
Là, nous autres, on a décidé de faire une maison bigénération pour la sœur de mon épouse.
J'aime ça, ça.
Ça fait qu'on a à peu près, comment je peux dire, un bon 170 000 d'investissement à faire. Ce qu'on ne sait pas, c'est nous autres, c'est qu'après, s'il arrive quelque chose ou la belle sœur s'en va, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la valeur de la maison va monter? Est-ce que c'est facile à vendre? C'est ça qu'on ne sait pas, nous autres.
Bien, pour commencer, vous êtes dans un bon secteur. Déjà, en partant, Saint-Eustache, c'est quand même bien demandé. Votre propriété, dans le fond, c'est un bungalow?
Oui.
OK. Puis vous voulez faire un ajout sur le côté?
Bien, un garage avec un loyer en haut.
En haut du garage.
Exactement.
Parfait.
Ça ajoute à la maison.
Bon, bien, c'est toujours plus intéressant en haut du garage que dans le sous-sol. Je peux vous dire, les gens qui, souvent, en bigénération, ils se retrouvent dans un sous-sol peu éclairé. C'est pas... Moi, je pense que oui, il faut juste s'assurer de ne pas surinvestir pour votre secteur. Mais si vous avez vérifié que la ville le permet, ça, c'est important, la réglementation.
Oui,
tout est correct pour ça?
Oui, on est à voir, mais ça que je veux savoir, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il y a des subventions pour ça, peut-être?
Non,
il n'y a pas
de subvention pour ça, mais c'est un investissement immobilier. Donc, c'est sûr que si vous ajoutez un garage à votre maison, puis son logement au-dessus du garage va contenir quoi? Est-ce qu'il va avoir... Ça va être un logement complet ou...
Oui, complet. Ça va être un 3,5 avec mezzanine. Autrement dit, le lit va être comme en haut, là.
Oui, ben je trouve ça très intéressant, moi, Gérald. C'est sûr que là, j'ai pas vu votre maison, mais je pense que c'est très intéressant. Puis, il y a beaucoup de gens qui cherchent ce style de propriété-là aussi dans l'avenir. Donc, moi, je pense que c'est un bon investissement. Surtout que vous êtes dans une ville qui est quand même très en demande, pas trop loin de Montréal. Donc,
On est proche, oui.
Exactement.
C'est quand même quelque chose que on dit 170 000, ça peut monter beaucoup. Hein?
Avec les imprévus, ça se peut. Ouais. C'est sûr là qu'il faut vous assurer. Mais dites-moi, vous avez payé combien votre maison il y a 2 ans?
2,45.
Oh, OK. C'était quand même... vous avez quand même gagné. Depuis ce temps-là, ça se vend pas mal plus cher. Bien, vous pourriez récupérer la valeur que vous avez aujourd'hui, justement, en investissant. Ouais. Là, tu sais, en bout de ligne, c'est comme si vous aviez payé votre maison le prix d'aujourd'hui, probablement, mais vous avez un garage puis un logement. Donc, moi, j'irais de l'avant avec ça, mais...
Parce qu'à côté, on voit le prix des maisons qui est à côté, ça a explosé, autrement dit.
C'est ça. Puis vous, c'est un ajout. Donc, moi, je trouve ça intéressant, Gérald.
Oui, bonne chance, Gérald. Moi, je trouve ça très bien avec tout ce qui s'est passé. On veut revenir à ça. Hein. Donc, la vie à la maison le plus longtemps possible.
Puis
avec
un 3,5. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que le bigénération, Jeffrey, là, il y a tellement de gens qui installent leurs parents dans le sous-sol ou la grand-mère. Ou, tu sais, c'est pas intéressant. En tout cas, ça peut faire un temps, là, mais c'est moins éclairé. C'est moins.
C'est sûr tout à fait. C'est le meilleur plan. Là.
Ben oui, les bigénérations, soit à côté de la maison ou en hauteur. C'est l'idéal. Il y a plus de lumière, puis on va se le dire, c'est pas mal plus intéressant pour un membre de la famille de venir s'installer, de payer un loyer, si c'est plus clair, plus intéressant. Là.
Ben oui. Scott, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Scott.
Oui, j'ai une petite question pour vous. ma femme et moi, on a construit la maison de nos rêves en 2017, le coin de Saint-Hippolyte.
Oui.
Et on est capable de pas mal payé la moitié de la maison, mais on avait encore une mise de fonds à côté pour construire un garage, mais avec un mezzanine comme je sais pas comment dire, mais une deuxième maison, bigénérationnelle.
Oui.
Je sais pas comment dire ça.
Oui.
Je veux vous demander, c'est quoi le meilleur d'utiliser cette mise de fonds ou de prendre un prêt sur la valeur de l'équité de notre maison?
Bien, c'est parce qu'en ce moment, là, si vous investissez vos fonds dans des placements, si vous calculez que vous faites plus d'argent avec votre placement que le taux hypothécaire, c'est sûr que je vous suggère de prendre une hypothèque sur la valeur de votre maison parce qu'en ce moment, les taux sont tellement bas, ça dépend toujours de quelle façon vous gérez votre argent par la suite. Donc, par exemple, vous avez un montant de 200 000, est-ce que vous sortez vos liquidité pour bâtir ça ou vous faites un prêt, moi, j'aurais tendance à dire allons-y avec le prêt et éventuellement, vous essayez de placer votre argent, faire un petit peu plus. Parce que des taux hypothécaires en ce moment variables à 1,5 encore, là, ou même j'en ai vu un petit peu plus bas que ça. Donc, si vous arrivez à avoir une hypothèque très basse avec un taux très bas en faisant réévaluer votre maison et vous gardez vos liquidités pour faire des placements qui vous rapportent, là, sans nécessairement être risqué, mais vous faites un investissement intéressant, bien, la différence entre le taux d'intérêt que vous allez remporter et le taux hypothécaire, bien, cette différence-là vous revient dans vos poches. Alors, moi, j'irais plus avec une hypothèque en ce moment à cause du taux, finalement, que vous pourriez avoir.
Êtes-vous pas loin du lac Écho, du lac Achigan?
Oui, je suis comme, je peux lancer un pierre et toucher le lac.
Ah, oh, wow. Regardez ça, là, c'est un trésor, ce que vous avez.
Vraiment.
Oui, oui, écoute, on a construit la maison, c'est full Écho, c'est lead or et tout ça, là, c'est notre maison de rêve. Et on va jamais vendre ça, ça va juste gagner de l'argent dessus pour nous autres, mais ça va donner à mes petites filles, là.
Ben,
en français,
Scott,
c'est pas mon meilleure langue, là.
Merci, on se croisera peut-être en ponton à un moment donné.
Okay. Bonne chance dans vos projets.
On va parler avec Inès. Merci. Bonjour, Inès.
Bonjour à tous. Je vais vous féliciter pour votre émission.
Merci.
Alors, soit dit en passant, je suis également courtier immobilier et aujourd'hui, vous avez lancé un appel pour les gens qui parlent de leur rêve. Donc, mon rêve à moi et à mon conjoint, c'est de trouver une propriété au bord de l'eau. On est propriétaire actuellement d'un duplex et d'un autre immeuble, mais on cherche désespérément une propriété en bord de l'eau, avec un grand terrain pour nos chiens et tout ça. Et je vous dirais que c'est pas facile en ce moment. Donc, si jamais je peux lancer un appel général à tous ceux qui auraient une maison au bord de l'eau dans le secteur de Beauharnois et Léry, ça serait extraordinaire. C'est difficile de trouver quelque chose en ce moment.
Ben moi, ce que je trouve intéressant, Inès, c'est que vous-même, vous êtes courtière, puis vous le dites, c'est pas facile. Tu sais, même les gens pensent que les courtiers immobiliers ont des informations en arrière et tout ça. Là, c'est pas toujours le cas. Là, tu sais, puis quand on cherche une propriété de rêve comme ça, des bords de l'eau, il y en a pas tant que ça. Là, même pour les courtiers, c'est difficile à trouver. Hein,
effectivement, je vous dirais même que présentement, je suis tellement dans un mode recherche active qu'on fait du porte-à-porte. On fait des offres sur des propriétés qui sont même pas à vendre, puis on tente la chance. Puis un jour, on espère que ça va fonctionner.
Ben bonne chance, Inès. C'est vrai, hein, c'est un rêve pour beaucoup de gens, les bords de l'eau. C'est de plus en plus rare. C'est très convoité. Et puis les gens qui habitent au bord de l'eau, souvent, veulent pas s'en aller.
Ah non, ben comme l'auditeur précédent, comme Scott, devant le lac Écho ou à Chigan, dans ce coin-là, le marché là, a pris de la vigueur ces 15 dernières années, là, comme ça se peut pas. Là.
C'est ça. Ben bonne chance, Inès, avec votre projet.
Ben je vous remercie. Merci à vous.
Bonne journée.
On parle avec Maurice. Bonjour, Maurice.
Bonjour. J'appelle concernant une question que vous avez eue précédemment sur les installations septiques.
Oui.
Je suis un spécialiste en installation septique et fais beaucoup d'inspections pré-achat sur les installations. Et votre auditeur se posait la question à savoir s'il pouvait réclamer en vis caché. Ça doit faire 20 ou 25 ans que je témoigne comme expert dans
des causes similaires.
Mmh. Oui. Puis depuis une dizaine d'années, les jugements sont tous pareils. Une installation septique qui tombe en défaut après quelques années, n'est pas considéré comme un vice caché si l'acheteur n'a pas fait inspecter.
Oui.
Parce que c'est un élément qui peut être inspecté.
Exact.
Donc, même s'il y a de la neige ou même si c'est sous terre, que c'est pas visible, c'est possible de faire une inspection. Donc, on ne peut pas réclamer un vice caché.
Bien, c'est intéressant, Maurice, ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on achète une propriété avec installation septique, souvent on dit aux gens, voulez-vous la faire inspecter? C'est une inspection de plus, comme les tests de qualité de l'eau, Jeffrey, tu sais, quand tu as un puits, bien, c'est intéressant que les gens, c'est primordial, les installations septiques et l'eau pour une maison, là, tu sais, c'est la base. Donc, c'est vrai, il y a une possibilité de faire inspecter les installations septiques, puis par la suite, les gens pourront acheter en connaissance de cause, mais c'est clair, Maurice est toujours là, j'imagine.
Oui,
c'est ça. Quand vous arrivez pour témoigner à la cour, puis que, bon, les gens, ils disent qu'ils n'ont pas fait inspecter, le juge, il va dire, ben écoutez, vous avez pas fait vos devoirs, là. C'est un petit peu ça qu'il se dit.
Exact. C'est ça. Puis je voudrais profiter de l'occasion, si tout le monde demande un rapport de conformité.
Oui.
Tout le monde, parce que conformité dans la tête des gens, c'est fonctionnement, ça fonctionne. Mais la conformité, c'est conforme au règlement.
Oui.
Et ça n'a aucun rapport. Les banques ou les compagnies prêteuses demandent toujours un rapport de conformité. Puis les municipalités ont des archives, puis oui, ils peuvent dire oui, c'est conforme. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne.
C'est ça.
Ça a une durée de vie, ça a une fin. Et donc, c'est pas la conformité qu'il faut vérifier.
Mais vous, là, quand vous arrivez sur une inspection, vous êtes capable de prévoir que ben ça va lâcher dans pas long, ou ça va durer un peu combien de temps? Vous pouvez faire un pronostic, là?
On donne une opinion sur l'installation parce que, je vous donne un exemple, un champ de libération, on dit qu'il y a une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans. Il y en a qui durent 30, 35, 40. C'est difficile. Comme professionnel, on peut pas se prononcer sur le temps qui reste. Parce que la durée de vie dépend de deux choses, l'usage qui en a été fait et les conditions de sol où il est installé. Alors, c'est impossible de prévoir la durée de vie. Mais ce qui est important pour l'acheteur, c'est de savoir quand l'installation sera finie, est-ce que c'est possible d'en faire une autre?
Ah ben c'est ça, à la même place, parce que des fois, on se rend compte s'il faut déplacer les installations, ben là, on empiète sur le voisin, puis bon, j'ai déjà vu une situation comme ça, c'est pas évident. Donc, pour les gens qui cherchent, entre autres, un chalet, là, qui rêvent d'une maison à la campagne, c'est important, ça, ce que vient de dire Maurice.
Oui.
Les installations septiques, aussi, il faut s'assurer qu'on a le bon nombre de chambres. Tu sais, si t'as des installations septiques pour deux chambres, puis la maison a été agrandie, t'as quatre chambres, mais les installations septiques ont pas ce qu'il faut, c'est pas conforme, tu sais. Alors, c'est tout ça à vérifier.
Très pertinent. Merci, Maurice. On parle avec Daniel. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Ben oui.
Oui.
Bon. Je voulais juste avoir votre opinion sur ma situation. Tantôt, on a parlé justement de la durée de vie de certaines installations. Dans notre cas, on a vendu un triplex il y a 2 ans à Montréal. Là, les nouveaux propriétaires nous reviennent en disant qu'il y a un défaut avec les fondations.
Mm-hmm.
Donc, c'est une maison de 1930. Donc, 90 ans, l'espérance de vie des fondations, je ne sais pas si on peut dire que ça devrait avoir environ 100 ans. Ça peut durer plus longtemps. Mais
là, ça dépend de beaucoup de choses, oui.
Oui, c'est ça, oui. Donc là, est-ce qu'on a, on est en face d'un vice caché ou plutôt d'un désuétude?
Bien là, c'est que, là, premièrement, ces gens-là ont-ils fait inspecter quand ils ont acheté?
Oui.
OK. Puis il n'y avait aucun... Puis c'est quoi le problème de fondation exactement?
Bien là, en fait... Il y a une partie des fondations, possiblement avec la qualité des matériaux à l'époque, qui comme se désagrège.
Ouais.
C'est comme le béton était faible un peu.
Bon, ben moi j'irais, tu sais, ils ont fait inspecter à l'époque. Puis c'est un vide sanitaire, j'imagine, une cave de service?
Ça avait été excavé à 80% de la superficie, si on veut. Puis là où il y a la problématique, c'est à peu près 5 pieds de haut. Ouais.
OK, donc c'était possible de le voir à l'époque aussi, là, quand ils ont acheté.
Ça avait été isolé. Nous, quand on avait acheté, il y avait comme des styrofoam en panneau qui avaient été collés par-dessus ça.
OK.
Puis, donc, l'inspecteur, lui, il ne peut pas enlever ça.
Hein, non.
C'est ce qu'on dit. Ils ne peuvent pas faire ça. Fait que ça ne paraissait pas. Mais là, vous me dites ça. Puis en même temps, je me dis, une maison 1930, dans les murs, on n'est pas obligé de les ouvrir pour savoir qu'ils ne sont pas isolés.
Bien, c'est sûr que les normes de construction n'étaient pas les mêmes en 1930. Là, fait que c'est sûr, moi, je vois beaucoup de problématiques à Montréal, notamment sur la structure, la possibilité de tu sais, il faut stabiliser l'immeuble un peu parce que ça a travaillé, tout dépend du sol et tout ça. Donc, c'est un problème complexe, les fondations, mais moi, je dirais, ça sera à voir parce que ça fait 2 ans qu'ils sont propriétaires. Là, j'imagine, ils ont fait des travaux, ils ont enlevé le revêtement sur la fondation, puis c'est pour ça qu'ils ont constaté des choses. J'imagine, j'ai pas le dossier complet, mais c'est sûr.
C'est ça,
hein, ils ont fait des travaux. Écoutez, c'est très délicat. Moi, je demanderais l'avis quand même. Moi, je pense que, honnêtement, je pense pas qu'il y ait de possibilité nécessairement de recours, puis vous avez rien caché nécessairement là aux acheteurs. C'est un dossier un petit peu plus complexe, Daniel. Moi, je vous dirais, peut-être on va se reparler, puis peut-être vous référer à des gens là un petit peu plus côté juridique là, parce que selon moi, je ne pense pas qu'il y ait de possibilité étant donné l'année de la propriété, ils ont inspecté, mais ça reste à voir. Je peux pas
vous
confirmer.
Bonne chance, Daniel. J'ai un couple d'amis, Mel, en terminant là, 10 ans de procédure judiciaire dans le cas d'une fondation. 10 ans
ah oui?
de procédure.
Est-ce
Donc arrangez-vous ensemble. Oui, mais ça a pris 10 ans.
OK.
Ça a été coûteux. Ouais. 11h51, on revient pour la conclusion après ceci.